faire pas marcher la technique. Très bien. Bon, mais peut-être on peut commencer. Voulez-vous vous présenter de façon un peu...
Oui. J'ai 46 ans et j'ai appris l'année dernière que j'avais passé plus que la moitié de ma vie en France. Et ça m'a fait plus.
Ça vous a fait quoi?
Que d'avoir 40 ans.
Oui, ça m'a fait.
Oui, c'est important. Oui. C'était un moment important. Après, quelle est l'importance de la vie de jeune enfant? Donc la langue maternelle, le lieu de tous les souvenirs enfantines, le lieu où reste la famille, et la vie choisie d'adulte. Oui. Et les enfants, ici, maintenant, la famille ici. Donc, on ne peut pas comparer. Oui. Enfin, n'empêche que symboliquement, c'était assez important. C'était important.
J'ai pas encore atteint ce seuil, mais j'y pense.
C'est important. Et à deux ou trois occasions, je me suis posé la question si j'allais rentrer dans des ruptures, souvent dans des ruptures de couple. Évidemment, la question se pose, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Quelle est la raison profonde pour laquelle je me trouve en France? Parce que c'était un petit peu par hasard.
Vous êtes arrivé par hasard, vous n'avez pas dit...
Un peu par hasard, oui.
C'est votre premier contact avec la France?
C'est un contact intéressant parce que dans le cadre d'un échange avec un lycée à Avignon, il y a un professeur qui avait des cours de suédois. Je ne sais pas si vous avez eu le même, c'est pour ça que ça vous intéresse.
Alors, c'était un hasard.
En fait, ce monsieur a contacté notre école pour demander si on ne voulait pas faire un échange avec des élèves à Avignon. Et,
c'était quel lycée?
Je pourrais me renseigner, je me rappelle plus. On en parlait justement. C'était très intéressant. Donc dans cette école, on s'est regroupé quelques jeunes pour faire cet échange. Et c'était assez rocambolesque parce que c'était nous qui devions les accueillir en premier. Et donc on savait rien. C'était pendant les vacances de Pâques. Et la Suède, à Pâques, c'est le pire moment venir là-bas.
D'accord.
Il pleut, il neige. On ne sait pas quoi faire. Alors en plus, on avait l'école pendant qu'ils étaient là. Ils n'étaient pas en vacances en même temps. Donc ils traînaient tant bien que mal. Après coup, 20 ans après, on en rigole beaucoup encore. Parce qu'ils ont vécu quelque chose d'aussi exotique que nous quand on est en France, le côté très cadré, très organisé, tout ça. Donc, en fait, c'était un échange assez intéressant, mais du coup, on se sentait un petit peu perdu, un peu, et puis on devait faire... Enfin, comme font les jeunes en Suède encore, ils sont assez indépendants, assez adultes, assez engagés, puis nous, je me rappelle plus de jeunes gens à organiser des choses que les parents qui ne s'étaient pas organisés, structurés, ni par l'école. Après coup, maintenant, je peux voir vraiment Et donc, à notre grande surprise, quand on est arrivé à Avignon, pendant le 14 juillet, on avait des places pour le festival d'Avignon au Palais du Pape, voir Hamlet. On a été avec le petit train dans le Camargue. On a tout fait qu'on peut faire en 15 jours, donc tout payé par eux, évidemment, alors que nous, à la Suédoise, on a fait participer ces jeunes gens. Enfin, c'était assez drôle. Et donc, cette sélection, s'est fait comme ça par hasard. Et c'est parmi ceux avec qui j'ai des grands contacts encore. Ce sont des amis de ce voyage.
D'accord.
Un peu par hasard. Parce qu'on avait déjà... C'est pour ça que je dis aussi, pourquoi on choisit le français. C'est culturel, il y avait quelque chose. Et on avait tout ce courage ou cette envie de se jeter à l'eau un petit peu avec cette histoire. Donc, après coup, c'est assez drôle, ouais. J'ai avoué tout de suite à la jeune française qui donc est venue chez moi que j'avais absolument aucune connaissance dans la langue française. Elle était très gentille et on a mis.
Elle parlait anglais, elle?
Non. Enfin, très peu.
Oui.
Ensemble. Moi, j'étais très volontaire toujours. J'ai toujours été très, très, très dispersée et pas très organisée. Enfin, j'ai pas fait ce qu'on me disait de faire, mais j'ai fait à ma manière. Donc, j'ai réussi à avancer quand même. Et on a mis au point un système d'apprentissage avec elle où on a enlevé tout le maximum de grammaire, où elle acceptait de comprendre. Il y avait présent, futur, je vais, c'est tout. C'est tout. Et pas décomposé comme ça. On a organisé le grammaire. Et puis elle acceptait ça. Non, parce que c'est vraiment très difficile pour les étrangers de parler avec les Français. C'est les gens que j'ai rencontrés qui ont le plus du mal à accepter les déviances, les fautes. Donc ils écoutent plus, ils détournent le regard, ils parlent plus, ils vous parlent plus fort pour que vous compreniez mieux.
Mais ils n'arrivent pas à adapter ou à
s'adapter. Les gens sont extrêmement gênés en France quand vous parlez mal. Alors qu'en Italie, en Angleterre, en Suède, on est félicité en permanence. Donc c'est pas très. Donc j'étais très encouragée par ça. Et puis du coup, je me suis jetée à l'eau, puis je n'ai pas j'ai parlé tout le temps. Donc ouais. Ça, c'était un déclic.
Donc ça vous a quand même...
Oui, c'était très bien. C'était après donc la première année au lycée. Et je suis revenue, après, donc on a fait le voyage là-bas, je suis revenue et j'ai dit à ma prof que j'étais toujours aussi mauvaise élève, mais si elle voulait bien accepter que je continue à parler. Donc, du coup, les deux dernières années en français étaient très riches. Mmh. On était très peu nombreux. Et elle nous poussait plus à la lecture,
à la langue.
On lisait des pièces de théâtre, tout le monde avait un rôle, et puis on comprenait pas, mais on lisait. Et puis c'était de la lecture intéressante. Mmh. Hein. Qu'est-ce qu'on avait lu, entre autres, Marie Cardinal et le mot pour le dire. C'était quand même bien. Enfin, c'était de la littérature actuelle. C'était pas bon, il y avait Albert Camus et tout ça, mais enfin, il y avait quand même de la littérature. Je trouvais que c'était, Et puis elle a réussi à nous lancer. Donc ça, c'était quand même un bon départ. Donc quand je suis venue en France, j'étais pas du tout.
Mais donc, premier contact, c'était Avignon, monsieur?
Oui, c'était vraiment le premier contact. J'avais jamais parlé français avant.
Oui. Et vous avez dit, j'ai envie de revenir dans ce pays?
Non. On était une bande de copains de cette école d'art en Suède. Et comme on a tous demandé, c'est une école préparatoire artistique, j'ai fait de la céramique et on a tous on était 4 ou 5 à avoir une place de réserve, un Kunstfach, ce qui veut dire que grosso modo vous êtes pris l'année suivante. Mmh. Mais comme on est très pressé, donc on n'a absolument pas du tout envie de rester là et refaire une année attendre. Mmh. On est parti on est parti 4 personnes à Chypre. Mmh. On a loué une maison puis on est parti là-bas pour travailler dans ce pays chaud et pas cher pour pas rater à Stockholm. Donc on est parti là-bas, on a loué une maison, ça s'est passé très bien. Et j'ai rencontré, le premier jour où j'arrivais là-bas, j'ai rencontré un garçon avec un grand sourire qui venait d'avoir 26 ans, qui était français, qui était traducteur, et qui venait d'arriver aussi le même jour, et qui était heureux comme tout, parce qu'il avait déjà cherché un lieu pour traduire, et il avait trouvé cet endroit, il a réussi à revenir avec du boulot pendant 6 mois, il avait sa baraque, il était radiant. Et du coup, on est devenus très copains, et on a... Et déjà là-bas, donc à Chypre, et là, on a comme filtré, puis il adore ça, enfin ses côtés un peu... Il avait 7 ans plus que moi, puis il adore ça, transmettre, hein. Donc un côté prof comme ça. Puis ouais, donc on a continué à parler, enfin, je lui ai dit, moi j'adorerais continuer le français. Donc on parlait tout le temps, par contre, et donc il est traducteur, il parlait très bien anglais. Ouais. Donc dès qu'il y avait un mot, enfin on a trouvé pareil un système très rapide, très privé, dès que je ne trouvais pas le mot, je le disais en anglais. Et lui traduisait.
On
parlait tout le temps. Enfin, on était dans un coin très isolé aussi. Mmh. Il n'y avait que des gens qui parlaient grec ou turc autour de nous. Et donc, on vivait de manière très intime et très amicale. Et donc, on a eu une sorte de relation un peu étrange. Et on a décidé de repartir ensemble et vivre. On voulait tous les deux vivre ailleurs que dans notre pays. On avait quand même un grand désir de partir. Et on voulait partir en Italie, tous les deux. Et on n'a jamais trouvé... donc on est revenu à France en attendant, parce qu'il attendait la traduction, parce que moi, j'étais pas écrit déjà, tout ça, voilà. Et puis c'est jamais arrivé par hasard. J'avais envie... J'ai cherché à faire de la céramique. Ça, c'est mon truc. Et puis je me suis dit, je vais travailler dans des ateliers comme apprenti. Mm. Et on a fait un grand tour en Italie entre-temps. Enfin, on apprenait l'italien. Enfin, on était complètement parfait. Oui, je ne tenais pas forcément... J'avais vécu toute ma jeunesse à Stockholm, mais... J'avais envie de bouger. Mm. Mais j'ai un passé un peu particulier aussi parce que mes parents étaient déjà étudiants à l'étranger.
Mm. Donc il y avait ça un peu dans la famille aussi.
Mon grand-père habitait aussi à l'étranger. Je crois que déjà ma grand-mère avait été en pension à l'étranger. Enfin, c'était des bourgeois. Donc ils avaient un peu. Oui, c'était pas un tabou, c'était pas un interdit, puis j'étais pas retenue à la maison par mes parents.
Oui, c'était pas terrorisé de savoir que ma fille.
Non, et puis c'était même. Je crois qu'elle me posait même pas la question si j'allais revenir au bout d'un an. Si c'était. Si c'était...
Les hasards de la vie, on verra.
Voilà. Mmh. Donc, je pense que sans ça, ça aurait été peut-être plus difficile. Et du coup,
Donc, vous êtes installé à Paris, là, vous étiez à Paris.
On habitait un appartement qu'on nous a prêté gentiment, donc on n'avait pas de loyer, c'était très simple, à l'île Saint-Louis, donc c'était la belle vie. Et puis j'avais l'habitude, j'avais travaillé déjà, j'ai commencé à dessiner très jeune, et j'allais dans les cours de croquis, donc avec les modèles, de dessin après de modèles, Et j'avais posé deux, trois fois au Suède et tout ça. Et du coup, l'idée m'est venue quand j'étais ici d'aller chercher du boulot comme ça, parce que d'abord, j'avais pas besoin de connaissances de langue.
Ah, vous demandez pas de parler.
J'ai cherché surtout à trouver un milieu où je pouvais travailler, dessiner et tout ça, sans payer une école privée, tout ça. Donc, mon but était très précis quand j'allais chercher mon premier boulot. C'était un atelier comme ça qui est ouvert à tout le monde à Montparnasse. C'est vraiment les vieux derniers réminiscences de quartier Montparnasse. Encore, et donc, j'ai mon date et puis j'ai dit, si jamais, est-ce que ça serait possible pour moi de me glisser dans le cours et dessiner quand je ne suis pas, engagée comme modèle. Et du coup, ce vieux monsieur là qui tenait l'atelier, il m'a dit oui. Et du coup, je crois qu'il était un peu surprise, mais je venais tous les jours en fait. J'étais tous les jours là. Et petit à petit, donc. Et puis en fait, ça l'a arrangé énormément parce que j'étais là tout le temps. Et des fois, il y a des modèles qui posent un lapin. Mm-hmm. Et donc, vous avez 70 personnes qui attendent, qui ont payé cher. Ouais. Et ils râlent. Et puis c'était des vieux, c'était des gens à la retraite, souvent des vieux, et puis des Français, donc ça râlait fort dans les couloirs. Ouais. Donc ils étaient très contents que je puisse à un moment donné juste. Voilà. Donc ça a duré un an comme ça, puis du fil à l'aiguille, j'ai eu du boulot à plein d'écoles, chez des gens particuliers et tout ça. Mais c'est surtout, ça m'a permis de peindre, dessiner pendant un an. Donc c'est ça. J'avais déjà fait un peu, mais enfin, je me suis vraiment. Et donc, pendant ma première année en France, j'étais tout le temps avec des Français, dans un milieu français. Et je n'avais pas la pression de devoir me servir de la langue, parce que ce n'était vraiment pas ça du tout. Mais ça n'empêche que je communiquais avec le monde. Je parlais tout le temps avec des gens. J'allais déjeuner avec des gens, j'étais avec d'autres gens. Enfin, on parlait tout le temps.
C'était la meilleure école, finalement.
Et donc, c'était... Oui, je suis rentrée assez rapidement dans un milieu que je cherchais un petit peu à rejoindre. Et puis,
vous êtes fait tout de suite à la vie parisienne, parce que c'est une vie quand même assez dure.
Non, au bout d'un an et demi, j'en pouvais plus. Non, je suis rentrée l'année d'après, j'ai fait le concours de Beaux-Arts. Je suis rentrée aux Beaux-Arts. Mais j'avais des conditions quand même pas trop difficiles, parce qu'on habitait dans une deux pièces à Saint-Louis. J'allais aux Beaux-Arts, j'avais tout en vélo. J'avais pas la pression de du boulot dans la banlieue. Ouais. Voilà, exactement.
Mais quand même, au bout d'un an et demi, ça a été...
j'ai trouvé ça dur. Et puis, on partait toujours pas en Italie parce que... C'est-à-dire que moi, je commençais à m'inscrire dans les choses. Et donc, c'était peut-être plutôt des problèmes qui se construisaient autour d'un couple qui prend des chemins différents.
D'accord.
Parce que je comprenais pas pourquoi lui, il s'engageait jamais à rien. Soi-disant, il n'allait pas rester là de toute façon. Mm-hmm. Donc, je dis, ça peut pas durer des années. On n'a pas de projet chez soi parce qu'on va toujours partir. Est-ce que c'est une mauvaise excuse pour pas... Pour pas vivre des choses, de s'isoler dans sa vie. Où est-ce que donc je voulais le mettre un peu à l'épreuve. Et comme on partait jamais en Italie où il y avait rien, je dis mais moi je partirais bien en Angleterre et ça te ferait du bien aussi d'améliorer ton anglais pour la traduction. Et donc j'ai fait un échange, j'ai construit un échange avec que je me suis débrouillée pareil parce que Beaux-Arts ne voulait pas en entendre parler, de faire un échange avec un élève et une école là-bas. Donc on est parti là-bas, j'avais quelqu'un qui habitait chez moi, j'ai fait deux échanges avec deux élèves, donc je suis restée presque un an là-bas.
Est-ce qu'à un moment vous êtes dit je veux revenir, je veux m'installer sur ma vie en France ou ça s'est fait?
J'étais pendant 3 mois, j'étais ravie de quitter la France. J'en pouvais plus, je trouvais que j'étais agressée tous les jours, que j'agressais les gens, qu'on n'arrivait pas trop bien.
C'était la vie parisienne, j'ai côté quand même un peu.
Est-ce que c'était parisien ou est-ce que c'était français? J'arrivais pas. Oui, peut-être parisien, parce que je ne bougeais quand même pas énormément. On allait dans le sud, mais c'était vraiment une bande de copains, donc c'était très isolé. Je ne comprenais pas pourquoi on s'attrapait. Les gens s'attrapaient tout le temps. Je trouvais qu'il y avait une espèce d'agression latente chez les gens tout le temps. Et en Angleterre, la première approche est quand même tout le contraire. C'est que thank you love, et comment ça va, et puis cheer up, mais c'est pour rien, les gens dans le
côté râleur.
Mais oui, et presque à son opposé caricatural et après bon, on va en allant plus loin, est-ce que vous allez pour après en tout cas. Moi, j'ai passé une année aussi à bien améliorer l'anglais. J'étais très contente. Tu fais un échange. Je crois que j'ai pu encore élargir un peu le registre européen, des possibilités, des trucs différents. Et ce qui m'a beaucoup surpris quand j'étais là-bas, c'est que les gens voulaient pas, me reconnaissaient pas tant que suédoise. En tant que française.
Ouais.
Parce que dans leur culture, ils étaient très fiers, très contents d'avoir une amie française.
Ça faisait française. Mieux que...
Oui.
Ah bon.
Oui, oui. C'était vachement surprise. D'autant plus qu'en France, on vit beaucoup sur les acquis. Enfin, dans les deux sens, je pense, parce qu'entre la France et la Suède, il y a une telle amitié, un tel amour, comme ça, que vous êtes toujours, vous rentrez, mais dans n'importe quel milieu. Et dans les deux sens, je pense. Et il y a suffisamment peu de Français en Suède. Bon, et nous, on est un petit pays. Enfin, l'accueil est toujours extraordinaire. C'est toujours très facile.
Et par rapport à cette identité, puisqu'on en parle aujourd'hui, après je ne sais plus combien d'années en France, vous sentez quoi ? Parisienne, française, suédoise ?
Je suis vraiment... Oui, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup du mal à répondre. Mm. Je parle... C'est la même question.
Enfin, donc, quand vous fondez la société.
Mais mes amis, je vais dire, oh, oui, non, mais j'ai pas de souci. Non, j'ai pas de souci avec ça. J'ai jamais été très. Enfin, j'ai des amis très très importants, des amis suédois ici, mais je vis pas dans un milieu suédois.
Non, vous avez pas besoin de vous être pas reconstruit votre.
Non, mais c'est même la limite de la chose. Hein. Oui. Enfin, déjà, je suis pas issue d'une famille qui vit sur les grandes traditions, des choses comme ça. Il fallait déjà un peu abolir la tradition là-dedans. Mais je veux dire, la limite. Elle l'aurait senti au niveau familial, c'est-à-dire que les gamins, ils parlent pas vraiment suédois.
Oui, donc vous n'avez pas senti le besoin de transmettre
Si, bien évidemment, mais c'était difficile. Oui. Pour plein de raisons. Non, mais je me suis posé la question, essayer de me faire mon analyse, auto-analyse sur le pourquoi et le comment de la transmission de la culture à la langue française. Mm. Et elle est vraiment complexe. Hein. Elle est vraiment complexe. J'ai quand même amené ma gamine une fois par semaine ici avec les
copines. Ah oui,
donc
vous avez fait des démarches.
Oui, j'ai fait beaucoup de démarches, mais moi, parler naturellement avec les gens, ça a été très difficile. Mais bon, après, moi je pense que j'ai pour 3 heures, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ça, j'ai quand même des raisons personnelles. Donc on va pas rentrer là-dedans. Mais là, par exemple, pendant les vacances. Et bon, je suis persuadée que
Et vos enfants, en quel âge
10 et 14. Oui. Ils sont. Et je pense que ça fait partie de mon vécu aussi. Pour moi, une langue. Enfin, parce que les Français, ils disent, mais comment tu peux passer à côté de ça? C'est avoir le langage, c'est gratuit, et après, le bilan. Enfin, bon.
Oui, on peut avoir beaucoup d'idées dans la pratique.
Oui, je dis, déjà, la gratuité, je ne sais pas. Tout se paye. Tout se paye, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Et en plus, je ne souffre pas de ce complexe de ne pas pouvoir apprendre des langues qui ont les Français. Donc, moi, pour moi, tu veux apprendre une langue, tu l'apprends. Donc, je veux dire.
Et vous allez souvent.
Oui, mais pendant une période, quand les enfants étaient petits, on n'y allait pas. On n'y allait pas. Oui, donc ça fait partie de la réalité. Mais les gamins le réclament, et comme ils réclament.
Oui, donc eux sentent quand même un besoin.
Et moi, je suis comme ça. Je réponds beaucoup à des demandes. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils le demandent, qu'ils disent qu'on n'est pas suffisamment souvent, on ne parle pas assez, etc., je réponds tout de suite. Mais je ne leur impose pas énormément de choses aux enfants. Par contre, on dialogue beaucoup autour de la possibilité d'apprendre une langue, des niveaux différents. On ne parle pas complètement une langue ou pas du tout. Et que déjà, avec 5-6 mots qu'on entend et qu'on ne parle pas forcément, on est déjà dans la langue. Donc, je discute beaucoup de la langue avec eux, mais sur les langues qu'ils apprennent à l'école. Parce qu'il y en a une qui apprend l'anglais, l'autre apprend l'anglais... l'anglais renforcé, allemand, latin et français. Excusez-moi, mais, madame, mais français, c'est le programme qu'on a ici. Non, mais c'est énorme. C'est énorme, donc, je pense qu'elle est tout le temps dans la langue. Et quand on discute de quelque chose, hier soir encore à table, on discutait tous les vocabulaires parallèle qu'on a déjà quand on parle anglais et l'allemand, en suédois, déjà, il faut apprendre tous ceux qui sont gratuits, qui sont déjà là. Donc on joue avec les langues, et puis ma fille qui a 14 ans, elle s'est dit qu'elle voudrait aller en Suède.
Puis c'est un âge où ils ont cette curiosité aussi, on ne peut pas leur imposer.
Ben, elle y va toute seule, cet été, elle est allée, l'année dernière, elle est allée toute seule.
Vous êtes de Stockholm, c'est ça?
Oui, vivre avec la famille de ma sœur 15 jours. Et cet été, elle est allée avec ma mère et sa cousine en Espagne, après en Suède. Donc, elle commence à s'intéresser à tout ça. Elle se balade à Stockholm toute seule. Elle commence à. Et puis, quand je lui ai dit qu'elle pouvait effectivement partir faire du suédois à l'université un an, comme nous, en Suède, on part en France. Elle a trouvé ça. Et je pense que je vais pousser dans ce sens-là. C'est la meilleure façon aussi d'apprendre la culture, de peu l'indépendance.
Alors, comment elle communique avec votre famille en Suède?
Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles c'est pas si compliqué, parce que ma mère parle français. D'accord. Ma sœur parle français. D'accord. J'ai une sœur qui parle pas français, mais qui était complètement absente de la famille à cause d'une maladie. Elle était complètement ailleurs. Elle n'était pas vraiment dans le coup, donc ça nous manquait pas. Cette communication ne manquait pas énormément.
Et donc ça fonctionne.
Il y a quand même un relais, toujours. Et Et les deux cousins suédois, ils adorent, enfin, ils apprennent plus français que les miens après suédois, quand même, ils sont très motivés. Et maintenant, ils parlent en anglais.
Oui.
À 14 ans, ils parlent en anglais. Et je leur dis aussi, c'est génial, vous parlez en anglais. Je veux dire, vous êtes en égalité sur ce plan. Il ne faut pas avoir ça comme un problème aussi. Parce que là, vous connaissez autant l'anglais tous les deux, alors allez-y, puis bon, les mots rentrent par-ci, par-là. Mais là, ils vont faire un stage encore pendant les vacances de février, puis elles sont très motivées pour y aller, même si chaque fois...
La motivation est la meilleure chose.
Oui. Et là, j'avais une jeune fille qui habitait de moi chez moi pour chercher du boulot, un appartement, enfin, comme je peux le relais de copains comme ça, puis j'ai de la place chez moi, donc elle a vécu chez moi 2 mois. Oui. Elle a pris le français avec mes gamines, parce qu'elle était très timide, et... Oui. Parce qu'en fait, je les ai laissés un peu tout seuls. J'ai vu qu'il se passait des choses quand je n'étais pas là. Ouais. Donc, c'est pareil, les gamines aussi. Et elle a beaucoup joué sur le suédois avec les gamins aussi.
Et quand vous revenez en Suède ou allez en Suède, je ne sais pas si vous rentrez ou revenez ou allez, vous vous sentez, vous fondez tout de suite dans la société suédoise ou vous sentez qu'il y a un petit décalage par rapport à vous?
Moi, je pense que j'étais, je me donne une raison. Quand je vais là-bas, je me donne une raison chaque fois. Ou alors, quand je suis en vacances, ou je me donne une raison. C'est-à-dire que je suis extrêmement attachée à des gens qui me connaissent, qui viennent souvent en France, avec lesquels j'ai des liens tellement forts qu'on n'est pas trop dépaysé. J'y vais pas juste comme ça, me promener dans la... Je pense que je me sens intéressée. Donc, j'ai des liens, je suis attachée à... Mais les gens qui viennent...
Ou genre, vous n'êtes pas attachée particulièrement au pays, mais c'est plutôt à des personnes.
Oui, je ne vais pas...
Vous pourriez imaginer vous installer en Suède, quitter la France?
Non, c'est quitter la France, mais pas m'installer en Suède.
D'accord.
Non, mais en plus, ce n'est pas un problème. Je veux dire, on y va en 2-3 heures. On n'a pas, si on vit le mal de pays ou des choses comme ça, on y va.
Les distances...
Non, j'ai plutôt l'impression de bénéficier pour le mal ou pour le pire. Hein. Il y a des fois, on a trop de choix, on a trop de choses à s'occuper. Mais justement, ce choix-là, j'ai fait, par exemple, un truc que j'ai trouvé qui me va... Il y a un moment donné, je m'entendais dire, en Suède, on a le sens de la collectivité, il y a des ateliers d'artistes partagés comme collectif, Axel Narka, par exemple. J'ai décrivé aux gens ce type de choses qui ne pouvaient pas exister en France, partager des machines, des matériaux, d'être responsables les uns des autres, tout comme ça. Et puis en fait, du coup, je m'entendais dire ça, et puis du coup, j'ai commencé à organiser des raisons d'y aller comme ça, en fait. On est 4-5. Enfin, j'y vais, par exemple, une semaine travailler là-bas. Et j'ai fait ça depuis 10-15 ans.
Vous piochez un petit peu.
Voilà, donc je vais me faire, j'ai pas besoin d'avoir un lieu pour travailler. Je m'installe dans cet endroit-là. Je profite pour organiser ça avec on l'a fait beaucoup aussi. C'était aussi, on laissait les enfants, on partait, on était entre amis. Enfin, on a fait ça à Grafikkonsthus, c'est à Malifié. Et puis, un autre endroit, à Roslagsgård, il y avait un atelier de lithographie pendant 4 ans, j'allais là-bas. Donc, j'ai profité pour être dans un monde de travail, dans un esprit de travail.
Vous sentez parfois que vous êtes obligé de défendre un peu la Suède par rapport à...
Je ne défends pas la Suède. Si ça intéresse personne, j'en parle pas. Je ne défends pas. Si je suis provoquée...
Ou l'inverse, peut-être, défendre la France pour...
Non, je pense que si... Je l'ai fait, mais ça fait longtemps que je suis là maintenant. Ouais. Et si je me sens provoquée, j'ai quelques petits trucs, des petits trucs standards, des réponses standards à sortir. Ouais. Et on a tendance à vouloir, plutôt les Français peut-être, de comparer une chose... on prend un exemple. En Suède, c'est génial, on a un an de congé maternité après la naissance. Donc, on est payé 80% de son salaire, c'est extraordinaire et tout ça. Et puis en France, n'importe quoi, retour au boulot tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment un truc classique. On ne peut pas comparer ça. On ne peut pas prendre une chose et là, si vous voulez, on peut. Contexte. Je dis que c'est comme avec le bilingue. Si vous voulez, c'est ça, vraiment, ça vous intéresse, on peut en discuter. Mais là, on parle d'un pays catholique et d'un pays protestant. On parle de. Tout un système de pensée qui est très proche et qui est très loin. Et donc, après, le système, je ne pense pas qu'il n'y a pas mieux ou pire. Je veux dire, à un moment donné, on accepte et on ne va pas non plus. On va au recul.
On ne peut pas imaginer quel est ce système.
Non, on va reculons soi-même si on va dans un pays et si on va tout le temps imposer aux Français tout ce qui est bien là-bas. Je veux dire, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est une logique complètement. C'est aussi râleur ou donneur de leçons que. Enfin, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais moi, j'ai le souci, effectivement, de m'inscrire dans la culture française, c'est d'essayer de comprendre le maximum de choses. Mais je me suis certainement un peu perdue.
Vous sentez que vous avez toutes les clés aujourd'hui?
Beaucoup de clés. Mais tout écrit jamais, parce que je suis une chercheure. Quand on est artiste,
oui, on, est
on a décidé de jamais trouver, enfin, de toujours chercher. Donc, on est toujours dans la...
Oui, on s'ouvre toujours.
On, pose, toujours on se pose toujours des questions, c'est très douloureux, mais,
oui, mais...
On faut... ça aide de dire ça, je pense. De dire qu'on cherche toujours parce que... Et puis, on est dans une autre structure de pensée et ça, on peut aussi transmettre aux gens, on peut le dire ça. Mais bon, c'est vrai que la première année, on me posait tellement de questions sur les Vikings, par exemple, la culture Viking, ça passionne les Français, que je suis quand même allée acheter Orm le Rouge, que j'avais jamais lu, je l'ai lu, parce qu'en me disant, quand même,
pour être à la hauteur,
autant en savoir répondre, je viens de passer par un imbécile pendant des années, et puis voilà, après ça s'est calmé. Donc il y a des choses comme ça, il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses, il y a des logiques, mais c'est je pense que ça, on peut le faire en toute humilité, servir à quelque chose aussi. Mais j'ai essayé d'éviter ce type de... Enfin, bon, c'est quand même... J'ai jamais travaillé dans un restaurant suédois ou un centre culturel suédois. Je ne me suis pas associée à ce genre de choses pour être ambassadeur de la culture, de la culture suédoise. Mais ce n'est pas facile. Il faut imposer... Là, je viens d'imposer une chanson suédoise à ma chorale, par exemple. Alors que ça met du temps.
Très bien. Je comprends pas. On va faire des...